Il y a quelqu'un qui a des idées?
Ou des objections, il n'y a pas que...
Oui, voilà.
On a un Sud-Américain qui se lance.
Je ne veux pas vous l'expliquer, parce que je ne serais pas capable, mais par rapport à votre premier point entre le libéralisme économique et le libéralisme idéologique, nous avons ici à Montpellier un professeur de philosophie qui s'appelle Michéa, qui a écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Le dernier, je pense, s'appelle La double pensée. Et il dit qu'effectivement, même si on cherche à les séparer, c'est une impasse dans l'idée, puisque ça ne peut pas aller, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et que si aujourd'hui on se trouve par exemple avec des valses au parti socialiste qui cherchent franchement à dire mais on cherche le nom du parti et qu'ils deviennent plus libéraux que les autres, c'est qu'ils disent à force d'être dans une double pensée, de croire qu'on peut être dans un libéralisme idéologique mais qu'on pourrait s'opposer au marché, à force de jongler, ils finissent par changer les programmes et se mettre d'accord avec eux-mêmes. Car ce qui soutient Michéa, c'est que la seule façon de vraiment mettre en place l'idéologie du libéralisme idéologique, c'est le marché et le libéralisme économique. Donc je pense que là-dessus, il y a une réflexion intéressante. Pour le reste, ce que vous avez dit, je pense qu'il y a parfois vous dites que c'est vrai que tout notre passé en tant qu'occidentaux vient du fait qu'on avait des colonies.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça, c'était une vision simpliste.
Non, vous avez dit imaginer ce que serait l'Europe si c'était une île.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc, à partir de là, si vous n'avez pas dit ça, je vous ai mal compris.
Oui, mais
effectivement, si l'Europe avait été une île, ce ne serait pas l'Europe d'aujourd'hui et le développement ne serait pas ça.
C'est ça.
Et donc, si l'Europe est devenue ce qu'elle est devenue, quoi qu'il en soit, c'est parce qu'il y avait les colonies. Il y avait l'autre partie du monde. Et aujourd'hui, un des problèmes du monde, aujourd'hui, vu globalement, c'est celui qui dit les décroissants, c'est qu'ils disent que la société occidentale a pu devenir ce qu'elle est devenue parce qu'elle avait plusieurs mondes à sa merci. Mais si tout le monde se met à avoir le monde pour eux, eh bien, on n'a pas cette planète. Et donc, effectivement, oui, ça, c'est une réflexion à faire, mais je crois qu'on ne s'en sortira pas tant qu'on continue... Je suis un peu d'accord avec Michel là-dessus, donc on continue à défendre le libéralisme, quel qu'il soit.
Ok. Je peux répondre à ça parce que ce sont deux points très importants et avec lesquels je suis en d'accord avec les deux, donc je vais pouvoir m'expliquer là-dessus. Je connais bien Michel, j'ai lu ses livres. C'est compliqué de dire que je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais je pense que c'est une tendance qu'il y a. Vous avez exprimé ça de façon plus brutale par Soral, par exemple, sur un ton plus politique et plus polémique, mais c'est le même genre d'idée, c'est-à-dire sur des réactions anti-libérales et anti-68-tard en particulier, mais qui remontent alors à la racine du problème qui serait le libéralisme classique, la mise au centre, si vous voulez, de l'individu, du sujet libre et pensant, et c'est une dérive et de la liberté individuelle, si vous voulez. Et ça, je pense que, effectivement, c'est une erreur. Je ne suis pas d'accord, justement, pour le lien entre libéralisme dans ce sens-là et libéralisme économique. Je pense que je peux très bien avoir une vie individuelle, personnelle, sexuelle, une pensée, etc., libre, c'est-à-dire non soumise à l'État et à l'Église, et travailler dans un collectif autogéré ou peut-être comme fonctionnaire, etc., en dehors du marché libre. Je ne vois pas le lien logique entre les deux. Il y a eu... un lien historique, ça c'est vrai, mais le lien logique, justement, je trouve que c'est la grande qualité de Marx et des autres socialistes du 19e, d'avoir découpé le lien logique. Les libéraux, ce que dit Michel, c'est en négatif ce que les libéraux disent. Les libéraux disent, si vous acceptez le libéralisme politique, vous devez accepter le libéralisme économique. Comme vous acceptez le libéralisme politique parce que vous ne voulez pas la dictature, vous ne voulez pas Staline, vous ne voulez pas la monarchie absolue, etc., alors vous êtes obligé d'accepter le libéralisme économique. Et Michel et les autres, qui sont anti-libéraux réellement dans un sens profond, disent oui, les deux sont liés, mais comme on veut pas accepter le libéralisme économique, on doit rejeter aussi le libéralisme politique. Moi, je suis pas d'accord, je défends la liberté d'expression, la liberté individuelle, le droit à chacun de vivre sa vie comme il l'entend, etc., etc. Et donc, ça, effectivement, c'est un gros débat, je ne peux pas débattre comme ça avec Michia, comme ça, sans avoir un débat organisé, mais c'est vrai que fondamentalement, là je ne suis pas d'accord. Et pour l'histoire de la décroissance et du monde, etc., je pense qu'il y a aussi une erreur que les gens font toujours, enfin les gens de gauche font souvent, c'est de sous-estimer la possibilité au moins de nouvelles technologies et de progrès technologiques. Le développement économique de l'Europe ne s'est pas fait. C'est pour ça que j'ai donné l'idée de la métaphore de l'île, parce que je ne sais pas comment exprimer les choses. J'ai toujours des problèmes avec deux sortes de gens. Sur ma droite, j'ai des gens qui disent, ça c'est le discours traditionnel qu'on a apporté à la civilisation en colonie, patati patata, et que ça nous a coûté de l'argent, et qu'on a été gentils, etc. Et sur ma gauche, j'ai des gens qui me disent que l'Europe n'est que le produit du pillage colonial. Comme si il n'y avait pas eu de progrès scientifique en Europe, comme s'il n'y avait pas eu une exploitation éhontée de la classe ouvrière en Europe, mais de la classe ouvrière européenne, comme s'il n'y avait pas eu un développement économique endogène. Alors j'ai donné la métaphore de l'île pour simplement suggérer qu'il y a un interland et qu'on dépend de cet interland. Mais je ne veux pas prendre une position extrême par rapport au rôle de cet arrière-monde. D'accord ? Je ne sais pas évaluer exactement l'impact, et je ne suis pas convaincu du tout par l'argument, parce que nous on s'est développé comme ça, les autres pays ne peuvent pas se développer. Parce que les autres pays ont quand même à leur disposition des technologies que nous n'avions pas au XIXe siècle. Et donc, il est très possible que le développement européen se fasse, mais que le développement de la Chine ou de l'Inde ou d'autres pays se fasse d'autre façon, et de façon moins brutale et moins impérialiste. Je ne vois pas de raison fondamentale. En particulier, je ne suis pas convaincu que d'ici 10, 20 ans, je ne sais pas quoi, on ne maîtrisera pas l'énergie solaire. Si on maîtrise l'énergie solaire, on a une source d'énergie bon marché pratiquement illimitée. Si on a une source d'énergie bon marché pratiquement illimitée, ça change beaucoup de ces problèmes sur l'histoire qu'on n'a pas... On a besoin de 10 ou 20 terres, c'est plus vrai. Et donc, je ne suis pas d'accord avec les décroissantistes parce qu'ils partent d'une prémisse absolument pessimiste et je ne suis pas d'accord avec ça. En plus, je pense que c'est totalement irréaliste leur programme. Enfin, ils pourraient avoir raison, ils pourraient être catastrophistes, mais je ne suis pas d'accord avec le catastrophisme, mais je pense qu'une des erreurs de la gauche a été justement, pour moi, c'est de, comme je l'ai expliqué, la raison pour le socialisme est une raison positive, c'est une raison liée à l'émancipation humaine, c'est pas une raison liée à la crise inéluctable du capitalisme. Les marxistes ont beaucoup trop transformé cette aspiration en idée que, au lieu d'en faire une étape de la libération humaine, il faut considérer que le capitalisme va à sa perte, va à la catastrophe, etc. Et d'où sortira la révolution. Et ça, c'est un truc que l'histoire n'a pas vérifié, et c'est simplement pas vrai. Maintenant, on a des écologistes qui viennent et nous disent, mais maintenant, le productivisme va nous mener à la catastrophe, et donc va nous mener à la révolution. Moi, je suis pas convaincu.
J'ai découvert votre pensée là, dans le monde diplomatique en août 2007 avec l'article L'heure zéro de la gauche. Et j'avais retenu cette phrase, le problème, principal de la période, c'est de gérer notre déclin, en Europe, de puissance coloniale et impériale, etc. Mais j'avais cru comprendre en lisant entre les lignes que une partie des acquis sociodémocrates n'avait été possible que par, le fruit de, justement, de ce que vous appelez le pillage, etc., etc., et qu'il fallait peut-être, être moins ferme sur la défense de ces acquis. De toute façon, on ne pourrait pas les défendre dans la mesure où on n'était plus une puissance impériale et coloniale. Et ce soir, vous dites... Vous n'avez pas cette nuance-là. Il faut défendre les acquis sociaux-démocrates.
Oui, ça c'est vrai. Mais je sais, vous n'êtes pas le seul, parce qu'en Belgique, on m'avait invité à parler de ça exactement avec la même lecture de l'article, donc je ne me suis peut-être pas bien exprimé, ou bien les idées moi-même, mes propres idées n'étaient pas claires. Moi, je ne prétends pas avoir des idées très claires là-dessus, parce que je pense que, comme je l'ai dit, je prends la métaphore de l'île, parce que ça me paraît clair. Tout le reste me paraît discutable. Comme je l'ai dit, le développement de l'Europe, tout le développement scientifique en Europe s'est fait avec évidemment cet arrière-monde, mais je ne suis pas d'accord qu'il est le résultat, qu'il n'y a rien qui s'est passé. Et donc les acquis sociodémocrates, si vous prenez par exemple les États-Unis, je ne vois pas encore les États-Unis sont moins impérialistes que nous, parce qu'ils n'ont pas de système de sécurité sociale comme on en a ici. Enfin, il a un peu changé avec Obama, mais ça je crois que c'est un peu une arnaque. Mais disons, mettons juste avant, il n'y avait pas d'assurance maladie, par exemple. Je ne dirais pas que les États-Unis sont moins impérialistes parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie. Donc je pense que les conquêtes social-démocrates ne doivent pas être vues comme étant uniquement le résultat de l'impérialisme, parce qu'on aurait pu avoir un capitalisme sans cela.
Merci.
et un capitalisme tout aussi impérialiste. Ce que je pense aussi, c'est que en fait, et ça c'est le paradoxe, c'est que nous sommes plus dépendants économiquement du tiers-monde qu'on ne l'était à l'époque coloniale, alors qu'on ne le contrôle plus. Ça c'est le paradoxe, ça c'est l'histoire des chemises et des Airbus. C'est-à-dire que nous avons tellement délocalisé la production, enfin nous, les capitalistes occidentaux, ont tellement délocalisé la production, que beaucoup de choses, et aux États-Unis c'est très frappant, le niveau de vie des masses n'est maintenu que parce qu'on casse les salaires, mais on fait venir des produits bon marché de Chine, qu'on vend à Walmart, à bon marché, à travers les chaînes de supermarchés où les gens sont super exploités, si vous voulez, mais finalement, l'ouvrier américain ou l'ex-ouvrier mis au chômage, qui a un petit boulot, les enfants qui ont un petit boulot, etc., peuvent quand même aller acheter des produits faits en Chine. Mais on dépend beaucoup, beaucoup plus qu'à l'époque coloniale, où après tout, des produits coloniaux, c'était quand même marginal. Le gros de l'économie se faisait ici. Et donc, même quand on parle de la période des années 50-60, il n'y a pas cette importation massive de produits bon marché. Et donc, là, je pense que le déclin est un problème, mais est-ce qu'on peut maintenir les acquis sociaux-démocrates en face du déclin? Moi, je ne vois pas, en tout cas, c'est nouveau une idée, c'est une idée à laquelle je réagis par rapport à la nouvelle gauche. La nouvelle gauche, elle dit, oui, mais ces acquis, justement, ils sont produits de l'impérialisme, ils ne sont pas très jolis, on ne veut pas les défendre, etc. Mais que va-t-on défendre? Comment va-t-on unir le peuple français? Le peuple de gauche en France, comment va-t-on faire? Je veux dire, les gens tiennent à ça, et ils ont raison de tenir à ça. Je pense qu'il faut essayer de les défendre, je ne suis pas convaincu qu'il n'y a pas de solution. Mais je dis, le problème, c'est le déclin. C'est-à-dire que si des gens en Chine sont prêts à produire, prêts à produire des trucs bon marché, et que nos capitalistes vont investir là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on organise notre économie? On va devoir peut-être retrouver le coin de vie, on va peut-être devoir se dire, on doit se déconnecter du reste du monde, parce que le reste du monde, si on laisse les capitalistes faire ce qu'ils veulent dans le reste du monde, ils vont simplement, on va simplement avoir une population ici complètement qui est de trop, qui n'a plus rien à faire, sauf les capitalistes. C'est d'ailleurs très intéressant, entre parenthèses, quand on parle d'impérialisme, on pense souvent au livre de Lénine, parce que je parlais de Lénine dans le titre, Impérialisme, c'est la suprême du capitalisme. Mais quand on lit ce livre, on se rend compte qu'il a presque tout pris chez ce qu'il appelle un social-libéral anglais qui s'appelait Hobson. Et Hobson a écrit un livre en 1903, donc bien avant Lénine, qui est de l'époque de la guerre de 1916. Il a écrit un livre qui s'appelle Impérialisme, une étude. Et c'est un livre que moi j'ai lu quand j'ai écrit Impérialisme humanitaire, que j'ai trouvé très intéressant. Et une des choses qu'Hobson dit, qui est reprise par Lénine d'ailleurs, c'est qu'il dit si il se faisait que la Chine pouvait se développer économiquement, comment dirait-on, qu'on pourrait avoir un développement industriel de la Chine, alors on aurait des détenteurs de capitaux ici qui vivraient de coupons, comme il dit, d'investissement, si vous voulez, en Chine, et puis les biens afflueraient ici et ils entretiendraient une classe de gens qui sont des serviteurs, enfin qu'on appellerait l'industrie des services maintenant, d'accord ? Et toute l'industrie disparaîtrait, tout ce qui fait la force, si on veut, de pays comme l'Angleterre, et par exemple l'Angleterre disparaîtrait, et on aurait simplement des capitalistes qui vivent, et puis un certain nombre de serviteurs, et puis alors eux vivent de biens importés, enfin de profits faits ailleurs, les autres vivent de biens importés, que rien n'est fait ici. Alors on va devoir réinventer quelque chose d'autre, d'accord ? On va devoir inventer quelque chose d'autre. C'est pour ça que je dis, le problème du déclin, c'est un problème. Je ne devrais pas répondre, il faut laisser tomber les acquis sociaux-démocrates, mais il faudra réellement inventer quelque chose d'autre. Si on veut maintenir quelque chose ici, quoi.
Je peux poser une question ? En 1993, donc, à l'hôtel Fairmont, à San Francisco, lors d'une réunion de la gouvernance mondiale, c'est-à-dire à peu près grosso modo 500 Pékin, principalement des hommes, bien sûr, il y a M. Franciski qui a dit « Nous avons un problème. Nous pouvons produire donc tous les biens et tous les services avec seulement 20% de la population. Qu'est-ce qu'on fait du reste ?» Le reste, on l'occupe. Alors, j'ai le sentiment que vous avez peut-être une analyse qui est presque géographique. Alors que quand Brzezinski parlait du reste, il parlait de toute la population, lui, il avait plutôt une analyse qui était disons, capitalistique, dans la mesure où c'était finalement une espèce d'oligarchie financière internationale qui dirigeait tout. Parce que je ne pense pas que le petit Pékin, que si on peut dire, qui se trouve à Nankin ou dans le Sichuan, et grand chose à dire, donc on ne peut pas dire que ce soit les Chinois ou les Indiens, etc. Non, c'est une organisation mondiale de la production qui fait qu'on appelle la globalisation, qui fait que ça se passe comme ça. Quelle est votre opinion
Mais je pense qu'il faut, moi je pense qu'il faut toujours donner une certaine importance aux phénomènes nationaux et pas sous-estimer le problème des nations, si vous voulez, par opposition au problème du capitalisme. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que les capitalistes américains dictent leurs conditions à la Chine. Ils le font jusqu'à un certain point, mais la Chine se renforce, et la Chine est un pays. Bien sûr, il y a des divisions de classe en Chine comme ailleurs, mais ce n'est pas parce qu'il y a des divisions de classe qu'il n'y a pas non plus un projet national, y compris dans la bourgeoisie. Donc, ce sont des choses très compliquées. Je pense que la vision qu'il a est réductrice et un peu une expression de, justement, cette toute-puissance américaine qu'ils aient imaginée et dont ils ont démontré l'inexistence dans leurs aventures en Irak et en Afghanistan. Donc, il y a dans le discours américain parfois des choses que nous, on aime citer parce que ça montre comment ils sont, combien ils sont vilains, combien ils sont arrogants, etc. Mais on ne doit pas oublier la part d'illusion qu'il y a dans le discours de la toute-puissance américaine, même quand il est tenu par des Américains. Et moi, je sais pas, moi, de toute façon, comme je dis, moi, je me préoccupe de l'Europe, pas de la Chine, parce que la Chine, elle fera ce qu'elle veut, de toute façon, on va pas changer les choses là-bas. Donc la question, c'est comment s'adapte-t-on à notre déclin? Ça, c'est la question à laquelle j'ai pas de réponse, mais c'est la question qui me paraît évidente. Maintenant, je suis pas convaincu que, bon, la population chinoise, il y a un immense réservoir de gens très pauvres, et donc ils vont être industrialisés petit à petit, donc il y a un immense réservoir de gens, taillables et corvéables à merci, pour un temps assez long. Ça, comment ça va se passer là? Est-ce qu'il y aura des luttes sociales? Est-ce qu'il y aura une révolution? Est-ce qu'il y aura des réformes? Est-ce qu'il y aura des programmes sociodémocrates là-bas? Ce qui est possible? Qu'est-ce qui va se passer là? J'en sais rien. De toute façon, on ne peut pas résoudre le problème là. Le problème, c'est qu'on aura cette masse de production, de producteurs, de travailleurs qui sont à des niveaux de vie incomparables par rapport aux nôtres, même aux plus exploités ici. Et donc, comment va-t-on s'adapter? J'ai oublié de mentionner, c'est parce que j'avais rajouté ça dans mon exposé, puis j'ai oublié de le dire, mais il y a ce dont tu as parlé avant la conférence, à savoir des expériences locales d'économie, de développement alternatif. D'accord ? C'est peut-être une partie de la solution. Je ne suis pas convaincu que ce soit toute la solution, mais c'était une partie de la solution. On va devoir inventer d'autres modes d'économie, simplement parce que notre mode de fonctionnement ne marche pas. Mais pas uniquement à cause du pillage colonial classique, mais à cause le paradoxe, c'est la dépendance accrue qu'on a vis-à-vis de l'extérieur, à une période où on contre l'extérieur. Si on avait la Chine comme colonie, et on industrialise la Chine, et on contrôle la Chine militairement, et on exploite les travailleurs, là, c'est une chose. Si eux sont indépendants, ils le sont, et eux nous exportent des biens, c'est tout autre chose, parce qu'alors on devient indépendant d'eux, d'une certaine façon. Et quand je dis la Chine, bon, c'est vrai, j'oublie les analyses de classe, mais de notre point de vue, c'est... Bon. C'est la Chine.
Oui, moi je vous remercie parce que c'est gentil. C'est la raison pour laquelle j'ai claqué la porte du parti de gauche ce matin.
C'était pas mon intention rétrospective.
C'est plutôt pas mal.
Je n'ai rien dit contre le parti de gauche.
Moi je dis, et puis d'ailleurs j'ai envie de vous manquer dans aucun autre parti de gauchisme important. Mais en tout cas, par rapport à vous dites, je ne sais pas où sont les gens de la gauche classique. Il n'y en a plus, en tout cas dans des organisations, on peut dire, médiatisées et tout ça. Mais est-ce que, en fait, les reliquats, peut-être un peu jaunis, ne seraient pas les gens qui sont coordination anarchiste dans la CGA, coordination des groupes anarchistes ou alternatives libertaires, par exemple? Et est-ce que, par contre, ça c'est peut-être un manque de culture que j'ai, mais mon âge le pardonnera, est-ce que, justement, le libéralisme intellectuel politique, dont peut-être vous défendez, en tout cas si j'ai compris, ne serait pas le libertarisme, ou alors c'est un néologisme, mais c'est l'esprit libertaire, quoi, c'est... Voilà. Et sinon... Moi, ce qui m'a dérangé, ça c'était à la fin de votre discours, c'est votre peut-être croyance un peu technocrate, dans le sens où vous dites, bah oui, l'énergie solaire, ça va certainement pouvoir subvenir à nos besoins d'ici 10-20 ans. Donc, ça reste une croyance.
Peut-être, non, mais j'ai dit peut-être. Non, mais...
Oui, voilà. Parce que déjà, pour l'énergie solaire, il faut surtout de la superficie, et bon, la superficie n'est pas infinie. et tout le monde qui fait de croissance demande il faut des matières premières aussi pour ça. Donc il y a aussi des limites à ceci. Et il y a aussi un oubli de certaines crises, parce qu'il n'y a pas seulement la crise sociale et économique, il y a aussi la crise écologique, la crise des matériaux, la crise de tout ça. Donc par contre, là j'aimerais bien avoir votre avis, il y a aussi la crise de l'agriculture, des terres arables, de la stérilisation des sols, de la bétonisation des sols, des choses comme ça. Ça c'est un gros problème actuellement. Et est-ce que finalement la réponse, un prémisse de réponse serait pas de lancer un mouvement de désaccoutumance à la croissance, de déconstruction de tous les dogmes qu'on nous a inculqués depuis la gauche molle, au lieu de lancer des débats sur l'identité nationale, faire des débats sur l'identité internationale, des choses de genre.
Ok. Bon, d'abord, sur le parti de gauche, moi, je ne le connais pas très bien, je ne vis pas en France, mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, des partis que je connais encore moins, comme Die Linke, par exemple, en Allemagne, me semblent être justement des renouveaux d'une véritable social-démocratie. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens comme des socialistes, et moi, contrairement peut-être à vous, j'ai plutôt de la sympathie pour eux. C'est vrai que j'ai aussi des sympathies libertaires, mais ma façon de comprendre l'anarchisme n'est pas contradictoire avec une certaine social-démocratie radicale. Et je crois que c'est aussi le cas chez Chomsky, c'est le cas chez Russell aussi. Parce que l'alternative, si vous voulez, chez les anarchistes, c'est toujours le problème de la révolution, c'est le problème du grand soi. C'est-à-dire qu'on attend un moment où tout va sauter et puis on va créer un monde nouveau. Et ça, j'y crois pas. Je pense que si tout saute, ce sera le fascisme, ce sera un truc de droite, etc. Ce sera un truc horrible. Donc je ne crois pas, et d'ailleurs je crois que quand il y a eu des révolutions qui ont été couronnées de succès, ça a toujours débouché sur des dictatures. Donc je n'ai pas le fantasme de la révolution, mais je pense que là c'est un gros problème des anarchistes, c'est de ne pas être à la fois anarchiste dans un certain sens, dans un idéal, comme disait Russell, dans lequel la société doit tendre, tout en acceptant de faire des réformes. C'est quelque chose qui leur paraît totalement absurde, mais qui moi me paraît naturel. Alors, les organisations anarchistes dont vous parlez, je ne les connais pas, enfin, je ne les connais pas bien, je ne veux pas me prononcer dessus, mais je pensais à un sujet de masse pour l'instant. Donc, je parlais du sujet, par exemple, des grandes masses ouvrières, etc., du passé, on n'a plus. Et on a cette division sur la base religieuse, où les anarchistes souvent jouent un rôle, en tout cas, certains anarchistes jouent un rôle très discutable avec des attaques sur l'islam qui sont complètement insensées, à mon avis, en disant la mauvaise façon d'approcher le problème. Alors, le libertarisme, bon, là, c'est pas un néologisme, en fait, c'est un terme américain, qui viennent d'Américains, mais le libertarisme, ce sont des gens, ça existe assez fort aux États-Unis, ce sont des gens qui ont vraiment l'idéologie du libéralisme du 18e et qui n'ont pas bougé d'un pouce. Ils n'ont rien compris à la grande entreprise, ils n'ont rien compris au socialisme, et ça c'est assez fort aux États-Unis. C'est vraiment une posture théorique, je trouve qu'elle est totalement inapplicable dans le monde actuel, mais c'est des gens qui supprimeraient tout l'État, beaucoup plus que ce que les libéraux comme Thatcher et Reagan font, vraiment tout. Il n'y aurait pas d'armée, il n'y aurait pas de police, il n'y aurait rien, les routes seraient privées, il y aurait tout serait privé, les écoles seraient privées, tout serait privé, mais en particulier aux États-Unis, j'ai beaucoup de sympathie pour les libertariens, là, enfin certains libertariens, parce que avec eux, il n'y a plus une base américaine à l'étranger, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus d'intervention, il n'y a plus de CIA, il n'y a plus rien. Mais ce sont des utopistes d'une certaine façon. Ce sont des utopistes qui ne veulent pas retourner au socialisme du 19e siècle comme moi, mais retourner au libéralisme du 18e, qui est d'une certaine façon impossible. Donc il ne faut pas seulement vivre dans l'utopie, mais il faut garder les idées du passé et trouver les moyens, et ça c'est ce qui est difficile, de les adapter au présent. Le problème de la technocratie, je vous réponds là-dessus. Ça c'est vrai que je rencontre souvent ça dans les débats que j'ai avec les gens, par exemple, lors de genre amis du monde diplomatique, c'est qu'il y a une très forte hostilité à la technocratie, à la technoscience, technologie, etc. Que moi, je ne partage absolument pas. Je vais vous dire comment moi je vois le problème, par exemple, globalement, si vous voulez, c'est qu'au XXe siècle, on a accompli un progrès humain inouï qui a été de lutter contre la mortalité infantile. On a lutté par l'hygiène, par la vaccination et par l'intensification de l'agriculture. Ça, c'est un progrès qui a été une tragédie pour l'humanité entière depuis la nuit des temps. La mortalité infantile. Imaginez-vous, des enfants, des parents, etc., voyant mourir leurs enfants. C'était, mais si l'explosion démographique a eu lieu à partir de la guerre de 40, c'est pour cela. Les gens ne sont pas mis à avoir plus de rapports sexuels. Il y a simplement eu moins de mortalité infantile. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, ça c'est vrai, parce que à cause de l'explosion démographique, il y a beaucoup de pauvres. Mais vous ne pouvez pas non plus demander à un système économique, et ça je suis tout à fait en désaccord pour critiquer le capitalisme, le communisme, l'impérialisme, n'importe quel système économique, uniquement parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Parce qu'entre un moment où vous avez des gens qui meurent en grand nombre et qui ne vivent pas, et des gens qui vivent mal, très mal, mais vous avez une période qui vivent, ou qui vivent bien plutôt, il y a une période intermédiaire où il y a beaucoup de gens qui vivent mal. Ça s'est passé en Europe, ça se passe ici. Je trouve qu'il faut lutter contre cela, que c'est une des priorités, mais on ne peut pas demander à un système économique, quel qu'il soit, de gérer cette explosion démographique et de trouver un moyen d'assurer une subsistance convenable à tout le monde. Alors peut-être fallait-il ne pas lutter contre la mortalité infantile, mais l'explosion démographique a eu lieu, et c'est un résultat de la technologie, et c'est un résultat globalement positif. Et qui plus est, en 50 ans, qui est une petite fraction de seconde à l'échelle de l'histoire humaine, on a trouvé le remède à ça, qui est le contrôle des naissances. On est passé d'un contrôle naturel des naissances avec mortalité infantile massive à un contrôle artificiel des naissances par la contraception, l'avortement, etc. Et ça, c'est aussi un progrès technocratique gigantesque et qui s'est fait partout dans le monde. Il s'est fait réellement partout. Bon, il y a quelques régions, enfin, qu'on peut en voir, mais ça s'est fait partout dans le monde. On a réduit. On n'a plus des familles, plus d'enfants. Il n'y a plus de pays où, typiquement, les gens font 10, 12 enfants. Ce qui était le cas dans tous les pays au moment où la mortalité infantile a diminué. Et donc, là, ça me rend optimiste sur les solutions technologiques. Ce sont deux crises majeures de l'humanité qu'on a résolues au XXe siècle, et ça me rend optimiste. Mais évidemment, ça a des contreparties. Mais moi, je trouve que souvent, j'ai l'impression, quand j'écoute les décroissantistes, que si on éliminait 4 milliards d'êtres humains, et ça, c'est eux et pas les capitalistes qui pensent à ça, il n'y aurait aucun inconvénient, parce que ce serait bon pour la Terre, on pourrait vivre plus écologiquement, etc. Mais on vit avec ces gens, ils sont là, on ne peut pas les supprimer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour assurer une vie minimalement décente? Moi, je ne vois pas de solution non technologique à ça. Hein.
Avant de passer la parole à monsieur, je voudrais dire que s'il y a beaucoup de pauvres, ce n'est pas seulement parce qu'il y a une augmentation démocratique, c'est surtout aussi parce qu'il y a une répartition des richesses un petit peu aléatoire quand même.
Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai, mais n'empêche, si on regarde l'évolution de l'Occident, je suis d'accord. Si la répartition des richesses était différente, c'est vrai, je dis, il faut lutter pour cela, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'un système économique, quel qu'il soit, s'adapte à une explosion démographique si rapide en si peu de temps. Ça, c'est ce que je dis. Ça s'est jamais produit dans l'histoire humaine, et ça a été maîtrisé après 50 ans. Et ça, ce sont deux facteurs que les critiques, et ça je regrette, que les critiques du système, les critiques radicaux du système, entre particulier les décroissantistes, ne prennent jamais en considération ça, ils ne disent jamais ce qu'ils vont faire avec tous ces gens, parce que rien ne dit que dans la décroissance, ces gens-là vont se porter mieux, vont vivre mieux, vont arriver à vivre mieux. Moi, le problème de la décroissance, c'est que j'ai l'impression que c'est la énième incarnation de la gauche morale. C'est-à-dire qu'on montre du doigt maintenant le prolétariat, on dit, regardez, ils font leur shopping, avant c'était des pauvres, c'était des racistes, c'était Le Pen, etc. Maintenant ils font leur shopping, ils vont acheter des trucs, etc. Ils achètent des trucs futiles, inutiles, etc. Mais moi, je vois ici, j'ai amené un article, lui je le trouve très intéressant, de Jacques Sapir, qui donne des chiffres, si vous voulez, sur l'écart de revenus en France entre les revenus salariaux et les revenus des capitaux. Et cet écart, comme dans tous les pays occidentaux, a été augmentant dans les 20 dernières années. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la gauche morale a fait tous ces discours de gauche morale, et pendant ce temps-là, les capitalistes sont cassés avec la caisse. Et j'ai peur qu'avec la décroissance, on soit la même chose. On va dire aux prolétariats, regardez, vous êtes des vilains, consommez moins, etc. Et puis les autres vont continuer à consommer plus. Si on me dit la décroissance pour les hauts revenus, ok, les capitalistes, si on a un moyen de les maîtriser, si on a un moyen de faire quelque chose là-dessus, qu'on commence par eux, et puis qu'on discute pour les autres. Mais il y a dans le discours décroissantiste un moralisme qui mérite. Exactement comme la gauche morale.
S'il vous plaît. Oui. Puisque vous parlez de décroissance, de déclin, sur le plan économique, politique, etc., on pourrait envisager que ce déclin soit également un déclin sur le plan intellectuel. Non, c'est ça. Et une grande partie de votre œuvre, de votre activité, avant le thème que vous abordez aujourd'hui, a beaucoup insisté sur la démystification de certains imposteurs, On pense bien sûr, je pense bien sûr à l'affaire Scholal et Bribon, hein, donc sur les impostures scientifiques. Et je pense donc que l'avènement du relativisme ou la montée de l'irrationnel, même si dans le débat que vous avez avec Chomsky, la montée de l'irrationnel n'est peut-être pas son point de vue, il parlerait plutôt d'une constance de l'irrationnel qui basculerait dans la baisse des religions vers la montée des sectes, mais peu importe. Regardons le déclin intellectuel et imaginons que l'une des causes de ce déclin soit dans la postmodernité qui s'appuie, et c'est pour ça que je vous pose la question à vous, qui s'appuie sur une mauvaise ou une malencontreuse interprétation des résultats de la physique quantique. Nous savons bien que vous êtes un spécialiste de physique quantique, de physique mathématique, que les équations différentielles non linéaires n'ont pas de secret pour vous, et vous avez donc dû réfléchir beaucoup plus que je ne pourrais le faire moi-même sur la fameuse controverse de Copenhague, non pas le Copenhague récent, mais le Copenhague de 1927, où tout le monde se souvient et peut se rappeler du débat entre Bohr et Einstein, Einstein disant à Bohr « Dieu ne joue pas au dé » et Bohr répondant à Einstein « Qui vous êtes-vous, monsieur Einstein, pour dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire ?» Dieu est évidemment la nature dans ce débat. Alors ma question est là-dessus précisément, et peut-être la relirez-vous au débat de ce soir, si vous la trouvez complètement à côté du débat, vous pouvez bien sûr la rejeter. Ma question est-ce que cet indéterminisme qui est extrait malencontreusement de la physique quantique n'a pas légitimé le relativisme où tout se vaut, où raison et foi c'est la même chose, où l'UIP, l'université Inter, machin de Paris, etc., etc., fonce à tête baissée là-dedans pour légitimer des choses complètement ridicules. Vous en avez démystifié quelques-unes, il y en a-t-il d'autres encore qui vous conviendrait de démystifier, etc., etc. D'où, je me résume vraiment pour terminer, le déclin n'est-il pas avant tout un déclin intellectuel?
Ça, je ne peux pas répondre à ça. Je donnais un... Mais de toute façon, encore une fois, moi, je vois le déclin... Bon... Je ne vais pas répondre à votre question parce que je ne veux pas trop mélanger les débats et je ne veux pas perdre le reste de la salle avec des débats pour lesquels ils ne sont pas venus sur la mécanique quantique, etc. Si ça vous intéresse, j'ai un livre que j'ai écrit avec Hervé Zierne qui s'appelle Philosophie de la mécanique quantique et bon, vous pouvez lire mon point de vue là-dessus, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il faut éviter de donner trop d'importance, disons, cosmique ou sociétale à des débats relativement techniques. Maintenant, je suis d'accord avec vous que ce que je pense, vraiment, ce que je pense en lien avec le déclin, c'est qu'il y a un pessimisme culturel dont on trouve certains aspects dans la philosophie de la décroissance, mais qu'on a trouvé depuis la guerre en France, et qui est lié au déclin, ça je pense. Je pense que si vous êtes, mais ça c'est, bon, je vais une petite remarque, ça n'a rien à voir avec la mécanique quantique, mais ça a à voir avec l'histoire des idées. Si vous prenez les idées en Allemagne après la guerre de 14, que vous preniez Heidegger, Spengler, même l'école de Francfort qui se dit de gauche, marxiste, etc., Strauss, vous prenez aussi Anna Arendt, à mon avis, vous prenez tous ces courants de pensée, ils sont tous extraordinairement pessimistes par rapport à la modernité, et à mon avis, ils sont pessimistes, ça c'est mon interprétation cynique de la chose, ils sont pessimistes par rapport à la modernité parce que l'Allemagne avait pensé gagner la guerre sur la base de la science, de la technologie, de la modernité, et la perd. Et le dépit du fait de perdre la guerre mène à un culture pessimisme très très fort, un pessimisme culturel très fort. Et moi je retrouve, je suis désolé de dire ça à mes amis français, mais je trouve la même chose en France après la guerre de 40. Parce que la France se trouve dans le camp des vainqueurs, mais dans un sens, à cause de 40, elle a perdu la guerre. Et donc, cette perte de puissance, puis la décolonisation, la perte des colonies, la perte de l'empire, la perte du statut, etc., etc., est très mal ressenti par l'intelligentsia et mène alors à ce pessimisme culturel qui est postmoderne, qui est anti-progrès, qui est anti-raison, qui est anti-scientifique, etc. Mais je ne mettrai pas ça sur le dos de Copenhague parce que ça c'est trop ésotérique si vous voulez. Mais c'est vrai que là j'aurais tendance à penser qu'il y a un effet, si vous voulez, culturel. Mais de nouveau, moi je vois le déclin, comme je l'ai dit, positivement. Je suis pour la décolonisation, je ne suis pas pour qu'on contrôle le reste du monde, je suis pour que le reste du monde se développe indépendamment de nous. Je suis pas pour l'hégémonie, je n'ai pas de but hégémonique, et je ne suis pas pour qu'on s'entretue, je ne suis pas non plus pour... Je veux dire, le déclin, c'est aussi le fait qu'on n'est pas prêt à mourir pour la gloire, pour la patrie, pour l'Église, non, mais c'est très bien. On est moins religieux d'antan, c'est très bien. On est moins fanatique, c'est très bien. Donc le déclin, le problème, c'est de le gérer. de ne pas retomber dans la nostalgie à la Zemmour, la nostalgie de l'Empire, la nostalgie des trucs comme ça, ne pas retomber dans l'identité, ne pas retomber dans, si vous voulez, essayer de gérer le déclin, c'est ça, de vivre bien entre nous, de vivre aussi bien qu'on peut entre nous, dans un monde qu'on ne contrôle pas, en être lucide. Mais pas, et moi je ne vois pas la perte de l'Empire, la perte de la grandeur, la, enfin, je ne suis pas française, je suis belge, mais vraiment, vous me direz, de quoi peut-on se plaindre quand on est belge, mais je veux dire, c'est, on va pas se plaindre d'avoir perdu comme ça un certain nombre de choses qui sont en fait des choses positives. Je m'entends, on va pas, les jeunes ici ne vont pas aller mourir à Verdun, hein, on peut les envoyer, ils se casseront. Je veux dire, et donc ce sera très bien, quoi. Je veux dire, il ne faut pas. Il faut pas vivre non plus, il ne faut pas voir le déclin négativement. Il faut l'assumer.
Oui, bonsoir. Merci de votre intervention. Pour en revenir à l'Europe comme une île, on a parlé des années 80, 83, le libéralisme. C'est dû à une dérégulation des marchés financiers, de la finance.
Entre autres.
Hein. Voilà, entre autres. Bon. Est-ce qu'une crise comme on vient de vivre actuellement ne permettrait-elle pas de re-réguler ces flux financiers qui vont investir dans notre pays et peut-être relocaliser un peu plus d'économie?
Oui, mais le problème, ce qui me frappe dans la crise, c'est que les outils intellectuels qui permettraient même à la gauche de proposer ça n'existent plus. Le problème, c'est qu'on a tellement eu un raz-de-marée libéral que vous ne trouvez plus. Moi, je ne suis pas économiste. Il faut quand même des compétences. L'économie, c'est pas un truc, c'est pas une grande science, mais c'est pas un truc qui s'invente, qu'on peut bricoler comme ça. Donc, il faut des économistes progressistes. Non. Moi, je pense vraiment que l'économie, il y a des aspects objectifs et des connaissances dans l'économie, même s'il y a beaucoup de mystification. Et donc, on aurait besoin d'économistes progressistes. On aurait besoin de nouveaux Keynes, de nouveaux Marx, etc. On aurait besoin de gens qui connaissent le sujet. Moi, je suis physicien, je connais pas le sujet. Je réfléchis à un niveau abstrait, mais c'est pas la même chose que de savoir, par exemple, un type comme Sapir ou d'autres. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Il y a quelques survivants d'anciennes générations, mais tous les nouveaux ont été balayés. C'est passé. Si vous allez au CNRS en France, en économie, on m'a dit qu'il y avait 4 keynésiens ou marxistes ou quelque chose comme ça. Je veux dire, presque pas. Donc, on n'a pas d'idée, on n'a rien. Parce que pendant tout un temps, on s'est amusé à faire la gauche des valeurs. Et donc on a tout réfléchi à l'économie. Quand la crise arrive, pouf, elle arrive, il n'y a personne qui est prêt. On peut dire, regardez à droite, on n'avait pas prévu ça, les économistes n'ont pas prévu ça, ils n'ont pas de réponse. Hein. Mais nous non plus, on n'a pas de réponse. Et donc je ne sais pas exactement. Oui, je pense qu'on devrait re-réguler l'économie, mais comment faire exactement, quelle mesure concrète prendre, ça, c'est pas mon domaine. Et on n'a plus de pensée de ce côté, vous comprenez. Là. C'est ça ce que je critique dans l'évolution de la gauche.
Votre intervention sur le binôme libéralisme et socialisme, et j'ai aussi apprécié la chute sur la question que faire, et notamment l'orientation que vous avez donnée qui consistait à avoir dans l'horizon l'idée de resocialiser les modes de production.
En partie, oui, enfin, resocialiser ce qu'il était. Quoi.
En tout cas, dans l'idée.
Oui. Hein.
Alors, c'est vrai que je me suis arrêté sur cette phrase. Pourquoi? Parce que les leçons que nous avons de la crise que nous traversons, c'est qu'en fait, les forces économiques sont dominantes. Le monde est extrêmement complexe. Et derrière tout cela, on peut aussi dire qu'il y a des agents économiques qui sont dominants. Alors, resocialiser les modes de production, c'est que faire par rapport, et là je fais aussi allusion à quelques-uns qui détiennent la puissance économique et financière, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas les éliminer. Donc, l'autre aspect de la question, c'est si l'on pense mode de production, l'envers du mode de production, c'est la consommation. C'est la consommation et l'approche démocratique de cette consommation. Et ce qui me fait intervenir, c'est que vous avez tout à l'heure balayé le discours sur la décroissance en indiquant que ça pouvait être récupérée par la droite en indiquant que ça faisait partir des valeurs morales que l'on impose, que l'on impose à la population. Et là-dessus, j'aimerais avoir plus d'éclaircissement parce que, a priori, je n'aurais pas le même, le même sentiment. Pour conclure et pour être bref, si par rapport à la crise que nous traversons, s'il y a peut-être une réponse quelque part, avec évidemment le montée, ça c'est la réalité, le montée des mouvements écologistes, c'est peut-être d'avoir une influence sur notre mode de vie et à commencer par réfléchir sur notre consommation et surtout notre surconsommation.
Oui, mais moi j'ai un problème avec tous ces discours sur la surconsommation. Ici j'ai des figures sur l'évolution des salaires par rapport aux profits et aux revenus des capitaux, et je vois qu'il y a une divergence très très forte. Il y a ça dans tous les pays occidentaux. Donc moi je ne sais pas comment les gens consomment tellement alors que leur salaire saigne depuis tellement longtemps. Alors aux États-Unis par exemple, la réponse est bien connue. C'est, ici en Europe, je connais moins les chiffres, mais en Europe, c'est aux États-Unis, c'est à cause de l'emprunt. Alors l'emprunt, évidemment, ça ne résout rien. Alors si on dit qu'il vaut mieux que les gens ne s'endettent pas quand ils n'ont pas les moyens de payer, ça c'est banal, mais ce n'est pas la décroissance, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est ne faudrait-il pas justement augmenter les salaires ou en tout cas augmenter un certain nombre de services sociaux qui compenseraient les baisses de salaire mais qui ne seraient pas liées, vous comprenez, par exemple des logements sociaux, des transports en commun, transports moins chers, la médecine, etc. Enfin, ça dépend des pays, parce qu'en France, le système est encore assez bien, mais il y a d'autres pays où c'est pas très bien, le système de soins de santé, même socialisé. Et donc, si vous voulez, vous pouvez vous poser la question, moi j'aurais plutôt tendance, plutôt que dire simplement augmenter la consommation, augmenter la sécurité, augmenter la stabilité de l'emploi, et augmenter la sécurité d'existence. Que les gens soient plus rassurés sur leur futur, sur leur pension, sur ce qui se passe s'ils perdent leur emploi, etc. Et qu'il y ait des politiques macroéconomiques qui permettent de trouver des emplois, de créer des emplois. Des politiques industrielles, ce qui n'existe pas, ce que la Commission européenne veut empêcher. Donc toutes ces choses-là, je trouve qu'il faut, si vous voulez, des politiques, comme on en a fait justement dans les années 50 et 60, qui essayent de permettre à la population de vivre une vie relativement décente, relativement sécurisée, etc. C'est pas la consommation. Moi, je veux pas spécialement augmenter la consommation, mais c'est certainement pas. Bon, je ne vois pas comment, dans la situation où on a une perte, une telle perte des revenus du travail par rapport aux revenus du capitaux, la gauche peut proposer une diminution de la consommation aux couches populaires. Ça, je trouve que il y a quelque chose qui est indécent là. Il y a quelque chose d'indécent. Or, le discours décroissantiste, de nouveau, fait ça. Exactement comme, si vous voulez, le discours antiraciste. Moi, je suis pour diminuer la consommation, comme je suis pour supprimer le racisme. Mais je pense qu'il faut le faire de façon réaliste et pas seulement tenir un discours qui finit par avoir l'effet inverse et qui finit par avoir un effet, si vous voulez, de marginalisation du discours de gauche, du fait qu'on ne vous écoute pas. Vous dites ça, mais après, dans 10 ans, vous plaindrez qu'il y a encore plus de consommation, etc. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je pense que le problème principal, c'est de donner aux gens plus de sécurité d'existence, de stabilité de l'emploi, stabilité de leur futur, etc. Alors ça a été complètement balayé, de nouveau, par la réforme néolibérale. Il n'y a plus d'emplois stables, le nombre d'emplois stables, il y en a, mais le nombre d'emplois stables a diminué catastrophiquement. La sécurité d'avoir une bonne école pour les enfants, des choses comme ça, qui ne pas... Comprenez, ça c'est dans ce sens-là qu'on pourrait aller, il me semble, sans augmenter nécessairement la consommation qu'on n'aime pas.
Une question.
Oui. Vous condamnez la réduction des programmes de la gauche à celui de revendication au nom de valeur morale, et ce que vous venez de dire, le mot d'indécence par rapport à une situation actuelle fait référence tout à fait à ces valeurs morales.
Bien sûr.
Vous permettez de continuer?
Oui.
Donc, c'était simplement pour remarquer que les valeurs morales, on peut les sortir par la porte, mais elles rentrent par la fenêtre. Le tout, c'est que vous les condamnez en tant que programme de politique, ce que j'admets, vous l'avez bien expliqué, en réduire donc les faire essentiels au détriment de quoi? Du reste, qui est la puissance économique. Et en économie, vous dites qu'il n'y a pas d'économiste pour définir ce qu'on devrait faire. Et la politique étant dépendante de l'économie, moi, je voudrais simplement, sur un exemple, vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez des pays d'Amérique centrale et latine, les quelques-uns, mais qui ont essayé ou qui essayent en ce moment de faire ce que vous dites, c'est-à-dire de reconquérir une souveraineté politique et économique vis-à-vis des États-Unis? Et qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pensez que, pour aller au bout de ma pensée, sans nationalisme, cette idée de reconquête d'une souveraineté quelconque n'a pas de sens, et que s'il y a une chose sur laquelle il faut se questionner aussi, quelle est la place du nationalisme dans votre idée de souveraineté?
Ok. Mais, bon, d'abord, sur la morale, il faut bien comprendre que, même si Marx, par exemple, a des phrases ambiguës là-dessus, je pense que la perspective que je défends de dire qu'il ne faut pas faire des discours moraux, il faut faire des changements de structure, n'est pas, philosophiquement, un discours amoraliste. Je discute de ça d'ailleurs dans une conférence que vous trouvez sur le web que j'ai faite à Lyon sur la pensée de Chomsky. Ce n'est pas du tout une absence de référence à des valeurs, mais ce n'est pas, c'est une fois qu'on a certaines idées morales, on essaie de les mettre en pratique par les changements de structure plutôt que par du prêchi-prêchard, c'est très différent. Ce que quand j'ai dit c'est indécent, bon, c'est indécent, c'est ma réaction, mais voilà, je trouve ça va loin. Mais c'est, j'ai le droit de dire que le racisme est dégueulasse, je suis d'accord pour dire que le racisme est dégueulasse, mais je ne pense pas qu'on va faire avancer les choses en répétant ça à vitam aeternam, c'est tout. Donc il n'y a pas de contradiction chez moi entre le fait de prendre des positions morales et le fait de dire que le prêchi-prêchard n'est pas la solution. C'est ça. Et or, le discours de la gauche morale, c'est le prêchi-prêchard sans arrêt. Pour la décroissance, donc, pour l'Amérique centrale et latine, ben, c'est exactement, si vous voulez, mais un autre niveau de développement que le nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment plus un problème, si vous voulez, de vouloir rattraper nos pays, de vouloir se développer, qui crée des ambiguïtés, si vous voulez, entre certains programmes, par exemple entre Lula et Chavez, par exemple, parce que Lula, dans un pays plus vaste, il est dans un pays qui n'a pas le pétrole comme Chavez, donc il est obligé, à mon avis, il est plus obligé que Chavez de suivre des programmes capitalistes classiques, parce qu'il ne voit pas comment en sortir, tout en permettant à l'économie de se développer, à l'économie brésilienne de se développer. Donc là, il y a beaucoup de complications, mais moi je suis évidemment très... Je trouve qu'il faudrait adapter à l'Europe ceux qui ne font pas imiter, comme imiter l'URSS, imiter la Chine, etc. Il ne faut pas imiter l'Amérique latine, mais il faut adapter à l'Europe ceux qui font là. Oui, je suis tout à fait pour. Pour moi, ce que Chavez et Morales font, peut-être pas aussi bien que lui, mais c'est revenir à ce qui pour moi est l'idéal politique, et mon héros politique, c'est Allende. Pour moi, Allende, c'est peut-être l'homme politique qui a eu du pouvoir, qui était au pouvoir, et pour lequel j'ai le plus d'admiration. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas très radical, mais évidemment, à l'époque actuelle, ça paraît très radical.
Mais sur le nationalisme.
Le nationalisme, c'est la version émotive de la souveraineté. D'accord? Si vous préférez, la souveraineté, c'est la version rationnelle du nationalisme. Moi, j'essaie de défendre toujours des positions rationalistes. C'est-à-dire, j'essaie de défendre sans émotion, sans rhétorique, sans... D'accord? Donc, je peux difficilement être nationaliste. Mais je suis pour la souveraineté nationale. Cependant, je suis assez lucide pour me rendre compte que dans l'histoire, la souveraineté a souvent été associée au nationalisme. De Gaulle, par exemple, était nationaliste. Quand j'étais jeune en Belgique, on riait de lui parce que ses discours étaient tellement enflammés, je veux dire, ça faisait rire tout le monde. Mais, n'empêche, si je regarde rétrospectivement, c'est un nationalisme qui n'est pas agressif. Il n'a pas provoqué de guerre contre d'autres. Il a subi la guerre de 14, il a participé à la guerre de 40, la guerre d'Algérie, il a mis fin. Il n'a pas voulu, on peut dire qu'il est fauteur de guerre par son nationalisme, donc c'est pas un nationalisme particulièrement destructif. Moi, j'arrive pas à adhérer à ça, c'est comme la religion, le nationalisme comme la religion, c'est des trucs qui me mérissent, d'accord? Mais je suis suffisamment réaliste pour me rendre compte qu'on n'aura pas de souveraineté sans une dose minimale de nationalisme dont on peut espérer qu'il ne soit pas agressif, qu'il ne soit pas contre l'étranger, vous comprenez? Donc, en Amérique latine, pour le moment, je vois pas, Chavez est très nationaliste dans son discours, mais je ne vois pas faire la guerre aux pays voisins. Donc là, dans ce sens-là, c'est un moindre mal, on va dire. Oui, je suis d'accord avec vous que probablement il n'y a pas de souveraineté sans un minimum de nationalisme, mais moi je n'encouragerai jamais le nationalisme parce que je trouve qu'il faut toujours, en tout cas, il faut toujours le limiter. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec la gauche morale, je ne suis pas du tout d'accord avec la gauche morale qui veut, attendez, je ne suis pas d'accord avec la gauche morale qui fait des arnaques comme la construction européenne, qui est une construction antidémocratique, au nom de l'antinationalisme, et qui fait comme si le maintien de la souveraineté nationale était fasciste, etc., génocidaire, patati patata. Ça, c'est pas vrai.
Une autre question, s'il vous plaît.
En 92, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. On a dit qu'il faut voter pour Maastricht parce que Le Pen est contre.
Monsieur Franck. J'ai trouvé ton exposé extrêmement éclairant, extrêmement intéressant. Et j'ai été frappé en particulier par le fait que tu as insisté dès le début de ton exposé sur la question clé, qui est de l'appropriation des moyens de production et de cette appropriation privée, et qui était elle-même d'ailleurs une cause importante de la perte du libéralisme d'origine. Et par ailleurs, il me semble qu'après, une fois qu'on a abordé les questions que faire, cette question-là, tu l'as reposée au départ en disant c'est un peu le verrou, c'est là, si on n'a pas ça, il n'y a pas moyen d'aller plus loin pour une vraie gauche. Mais en même temps, on ne l'a plus abordé dans la suite. Et donc, ma première question, c'est est-ce que tu envisages des possibilités concrètes, pragmatique, éventuellement pas à pas, puisque tu dis que tu ne crois pas à une révolution subite. Donc, est-ce qu'on peut revenir vers une réappropriation plus ou moins rapide du contrôle sur les moyens de production, que ce soit par la propriété de l'État, dont on avait le modèle soviétique et bien d'autres pays, que ce soit par un autre modèle qui était celui de la Yougoslavie que tu as évoqué en parlant de l'autogestion d'entreprise qui fonctionnait en réalité fort bien, sauf qu'ils étaient sous une pression étrangère et qu'ils ont coulé avec leurs emprunts au FMI et avec la dévaluation du dollar. Mais à part ça, c'est un système qui économiquement a marché très bien pendant une trentaine d'années avec une croissance économique absolument spectaculaire. Donc il y a des modèles possibles. La question est maintenant, est-ce que dans un pays comme aujourd'hui et avec la non seulement le contrôle des moyens de production, mais le contrôle de la concentration du capital, résultant lui-même de la concentration de la production, de la monopolisation des entreprises. Mais on parle souvent, j'entends souvent parler dans les milieux de gauche, des monopoles industriels, pétroliers ou autres. J'entends très rarement parler des monopoles financiers. Or, il y a eu un processus de monopolisation des finances. Lénine, puisqu'il n'y a pas allusion, est le premier à avoir clairement montré comment, dans la fin des années du 19e siècle, au début du 20e siècle, comment la concentration de la finance dans les banques avait entraîné une concentration bancaire qui avait elle-même débouché sur des oligopoles financiers que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui et qui contrôlent la vie économique. Et donc, toutes les perspectives de gauche difficiles à définir aujourd'hui ne dépend peut-être pas effectivement, comme tu l'as dit dès le départ, des possibilités de redévelopper un contrôle démocratique, non seulement sur les moyens de production, mais plus largement sur les moyens majeurs qui sont le capital financier, qui semble-t-il est quand même à l'origine, sans rentrer dans tout le débat sur la crise actuelle, mais quand même très largement à l'origine de tout ce qui est déperdition des salaires, déperdition des conditions de travail, destruction des sécurités de l'emploi, etc., qui sont toutes dues au fait que le capital échappe complètement, y compris aux patrons, y compris aux entrepreneurs. Donc là, c'est ma première question. Et la deuxième question, qui sera plus courte, c'est, puisqu'il en est ainsi, il y a, me semble-t-il, une erreur permanente à penser que nous vivons dans une économie libérale. Nous ne sommes plus du tout dans une économie libérale telle qu'elle pouvait être conçue au 19e siècle, là aussi évoqué, mais nous sommes donc dans une économie qui n'est, bien sûr qu'il y a toujours une économie de marché, bien sûr qu'il y a toujours de l'offre et de la demande, mais l'économie n'est plus contrôlée par la loi de l'offre et de la demande. En réalité, elle est contrôlée par des oligarchies financières. De là que même les entrepreneurs, même les patrons peuvent être trouvés en difficulté parce que l'argent, ils ne l'ont pas. Ils l'ont mis dans les banques et l'argent qui est mis dans les banques, il est parti dans la spéculation, etc. Donc nous avons une situation où en réalité toute la polémique sur l'économie libérale repose sur une fiction qui est que même s'il existe toujours un marché, il n'y a plus une économie régulée par le marché. Il y a une économie régulée par des oligopoles, c'est-à-dire par des petits groupes de gens qui, sans avoir de grandes connaissances économiques, décident de l'avenir économique. Alors, tout le reste, redévelopper une économie autonome de l'Europe, comme tu l'évoques, pour résister à son déclin, dépend de cette première question, me semble-t-il, comment est-ce qu'on pourrait en Europe remettre la main sur les moyens de production et plus largement sur le capital.
Oui, bien sûr. Mais ça, je ne sais pas si je peux répondre à ta question, parce que je pense que tu reformules ce que je dis, c'est que le point central, évidemment, c'est la question de l'économie, et tu as raison, et ça, j'ai peut-être été trop vite là-dessus, tu as raison que l'économie, effectivement, n'est pas seulement capitalisme, mais financière, et donc le problème est le contrôle même de la finance qui nous échappe. Et ça, ça ne monte pas à Lénine, ça monte à Ilferding, c'est même avant Lénine et... Si tu veux, la seule chose où je ne serais pas d'accord avec toi, c'est que quand tu dis qu'on n'en parle presque pas, je pense qu'on en parle quand même beaucoup. Il y a eu la taxe Tobin, il y a eu des projets, si tu veux, de très modestes choses, mais qui ont été proposées par, entre autres, le monde diplomatique. Donc, mais c'est vrai que ce serait une étape. Mais comme je dis, le problème, c'est que non seulement ils sont partis, non seulement pendant qu'on faisait toute l'histoire de la gauche morale, le capitalisme ont filé avec la caisse, mais ils nous ont enfermés dans la cave, ils ont parti avec les clés. C'est-à-dire qu'ils ont tellement bien ficelé leur truc qu'on ne sait pas par où commencer. Si tu prends l'Europe, par exemple, l'Europe, c'est vraiment le truc où les socialistes ont construit pour éviter les audaces du programme commun. En retour, on pourrait revenir au programme commun après l'échec de Mitterrand sous une autre forme, sous une autre idée, etc. Mais ils ont verrouillé le truc pour qu'on puisse plus jamais, même dans 1000 ans, revenir à quelque chose comme le programme commun. Ça, c'est l'idée de l'Europe. Ils ont rendu impossible, ils ont créé des conditions d'impossibilité de leur propre politique. Ça, c'est l'œuvre des socialistes des années 80-90. Et donc, c'est assez... Je sais pas par où commencer. Moi, je sais pas par où commencer. Mais au moins qu'on en discute, au moins qu'on remette ça au centre de nos préoccupations, qu'on se préoccupe de ça, et pas de la burqa, ou de la déclaration d'un tel, ou je sais pas quoi, que par pitié qu'on revienne à ça, quoi. Au fondamental, à une des classes... et à la propriété privée dans une production, et comme tu dis, du capital financier. Mais le capital financier est très volatile, comment est-ce qu'on va faire? À la limite, si tu veux, tu pourrais dire, bon, capital financier, à la limite, tu pourrais dire, on fait une croix dessus, ce qui nous intéresse, c'est l'économie réelle. On fait une autre monnaie, on sort de l'euro. Enfin, je veux dire, on pourrait trouver des solutions radicales, tu vois, qui redynamiseraient d'une certaine façon le capital réel, si tu veux, ou industriel, à l'opposé du capital financier. Mais de nouveau, là, tu rentres dans des questions où je pense, contrairement à beaucoup, qu'il y a réellement un savoir technique que je ne maîtrise pas. Qu'à mon avis, très peu de gens maîtrisent et que la plupart des économistes sont tout à fait que des tafles. Mais n'empêche, il faudrait des études concrètes, là. Il faudrait des études sérieuses que moi, je ne peux pas faire comme ça.
Si je pouvais donner deux exemples, juste deux mots.
Excuse-moi, on a un quart d'heure. Bon. Il nous reste un quart d'heure, donc okay. Encore trois personnes qui doivent parler.
Je suis content qu'on y revienne un petit peu, parce que j'ai eu un discours tout à l'heure, on se perdait complètement mon temps dans la réunion, parce que ça partait sur des considérations personnelles un peu bizarres, alors que la question que tu avais posée me semblait évidente, c'était, est-ce que c'est l'économique, hein, et quelle économique, les lois de l'économie, quelle loi de l'économie? S'il y avait des lois de l'économie, vous pensez bien qu'on aurait prévu la crise, hein, qu'on aurait su comment ça allait venir, donc il n'y a pas d'économie. Il y a une dictature économique qui est une espèce d'accumulation de puissance d'argent des gens qui dominent le monde et qui décrètent un certain nombre de lois qui leur vont dire. Alors là-dessus, il y a une domination de l'économique sur le politique. Le renversement, c'est que le politique prenne le pouvoir sur l'économie. Alors, à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la gauche dure ait une programmation, une envie de faire la démonstration que sur un certain nombre de choses, un peu par le politique, dominer l'économie, et je vais y venir tout à l'heure sur un truc très précis qui me concerne, je suis architecte. Et ensuite, il faut savoir pourquoi on changerait radicalement le monde, même en Europe, dans des pays où on perd nos privilèges, où on perd notre influence, notre puissance, etc. Et il se trouve que quand même dans ces pays, on a une montée en force de la pauvreté. Hein. et que ces gens-là sont tellement écœurés du fait que le politique ne prend plus le pouvoir sur l'économie, qu'ils ne participent plus aux politiques, alors qu'ils sont peut-être justement le fer de lance du prolétariat qui pourrait effectivement encore rénover fondamentalement la société pour prendre le politique en main contre l'économie. Hein. Alors, moi je prends par exemple, alors après on parle de décroissance, on parle de l'écologie, etc. Moi je vais prendre par exemple le problème du bâtiment, pour vous montrer un peu où sont les solutions. Mais il y en a partout comme ça. Et on les connaît. Simplement, on n'a pas de programmation qui permette de les mettre en avant. Par exemple, dans le logement, le pouvoir économique, c'est de dire, ben voilà, les gens qui ont de l'argent, on va leur donner encore un petit peu plus d'argent, allez, vous allez investir dans le logement qui sera plus ou moins social, ça s'appelle loi Besson, hein, d'Européen, etc. Hein, bon. Et ces gens-là, on va leur donner des cadeaux fiscaux qu'on ne mettra pas dans la résolution social-démocrate des problèmes, c'est-à-dire dans le grappillage au quotidien qu'on a besoin de faire grâce aux syndicats et grâce aux luttes sociales, on ne va pas le faire et on va le leur donner. Et on va balancer comme ça 60 000 euros par logement qu'on fait construire par des privés et qu'on va donner à des privés, moyennant en plus un apport de 60 000 euros, c'est-à-dire 3-4 fois plus que les aides de l'État au logement social, qui sont faites par des coopératives, par des sociétés HLM, par des mairies, par des régions, etc. C'est-à-dire toute la socialisation des moyens de production. Alors, si on fait ça, on s'aperçoit que, un, on récupère du fric, deux, on relance la production du logement qui est essentiellement non délocalisable, hein, qui crée des emplois, qui crée une dynamique, qui crée de l'argent parce que ces gens-là, ils sont plus au chômage, ils participent au financement de la sécurité sociale, etc. Enfin, on connaît le système. Hein, bon. Et en plus, on satisfait un besoin. Hein. Et ce besoin, en plus, on peut le satisfaire de façon, entre guillemets, écologique. C'est-à-dire que la décroissance, elle n'est pas sur le nombre de logements qu'on produirait, elle n'est pas sur le nombre d'emplois qu'on créerait. On peut même dire que si on désindustrialisait un petit peu une industrialisation de folie qui est faite de technologies dures, d'imbécilité constructive, en revenant sur des choses un peu plus fondamentales, on aurait plus de main-d'œuvre, on aurait des matériaux locaux, on aurait une suppression de la plus-value rajoutée par le transport. Moi, je dis à mes étudiants en déconnant, mais c'est bon de le dire aussi ici, vous avez quand même des choses incroyables dans la construction. On prend de la pierre, hein, on l'arrache, on la coupe, ensuite on se sert de l'énergie pour la broyer, on se sert de l'énergie pour la brûler, on se sert de l'énergie pour la transporter, on se sert de l'énergie pour y remettre de l'eau et pour refabriquer de la pierre, hein, ce qu'on appelle le béton. Hein. C'est quand même complètement extravagant. Et en plus, si on y met de l'acier dans le béton, on s'aperçoit qu'il ne tient plus la route. Hein, c'est-à-dire qu'on va... Donc on a des solutions, on a des programmations potentielles. Il faut revenir sur une socialisation des moyens de production avec des tas de solutions possibles. Et on sait quand même qu'on a désespéré de la politique plus de 50% de la population, qui sont étrangement des gens qui ont tout à fait intérêt à ce que le politique reprenne la main sur l'économique, et que ces gens-là, ben, ils n'y sont plus. Et on est en train d'intellectuels, en train de discuter de problèmes extrêmement vrais que vous avez posé au début, mais en dérivant. Et on n'a pas les gens qui sont concernés par le politique.
Donc, depuis une intervention, je ne vais pas répondre.
Une autre question là-bas, malheureusement,
il
y en a encore.
Il y a monsieur, vous voulez répondre? Monsieur, vous voulez répondre? Parce que lui, il voulait me répondre.
Attendez, mais il y aura l'occasion en fait.
Il a déjà parlé, c'est bon.
Vas-y.
Bon, j'irai un peu dans le sens.
Bonsoir.
Bonsoir. J'irai un peu en continuité du monsieur qui vient de parler. Donc j'ai été très intéressé par la première partie, c'est-à-dire changer les structures, la propriété privée et que faire. Alors que faire? Voilà, à l'automne dernier, on est allé à Carvirolas, c'est une ferme dans l'Aude, qui a reçu les gens de Reclaim the Field, c'est-à-dire c'est la branche jeune de la coopération paysanne, et de Via Campesina. Et on s'est fait traiter de marxistes collectivistes parce que on disait...
C'est un honneur.
Pardon ?
C'est un honneur.
Voilà. Mais c'est pas du tout ça. Bon, mais on s'est fait donc traiter comme ça parce qu'on disait acheter des terres, c'est pas bon. Ça va pas aller. On a pris l'exemple des communards qui ont été de 1871 qui ont été expédiés en Kanaky et en Algérie, et la génération d'après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des colons qui ont exploité. Bon. Donc, ça risque de faire pareil avec les gens de la Confédération paysanne. Et on a parlé des communaux, et on a parlé de la jouissance des terres. C'est-à-dire que la terre appartiendrait, sans propriété privée, mais ce serait délimité par les communes, et donc les gens qui veulent la cultiver, bon, auraient possibilité de le faire, comme ça existe au Chiapas, comme ça existe aujourd'hui au Burkina Faso, comme ça existait en Inde avant la colonisation des Anglais, et Rosa Luxembourg parle de la démarche germanique il y a 2000 ans où il n'y avait pas de propriété privée. Donc il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire que là, la terre, le foncier peut redevenir, pas propriété, mais sur la même mise des gens. Surtout qu'aujourd'hui, bon, il y a pas mal d'États qui achètent des terres, il y a des banquiers qui achètent des terres, on va crever de faim, et puis il y a l'histoire d'Atlixco que vous avez parlé, et qui est aberrant, puisque le jour où le pétrole sera trop cher, on ne pourra plus importer des légumes de Palestine, sans parler du problème palestinien, de l'esclavage. Voilà. Alors là, je suis OK avec vous, mais il y a un endroit où je ne suis pas du tout d'accord, c'est par rapport à la technique, parce que la technique, elle n'est pas neutre, et des machines font des machines. Anna Arendt disait que nous étions superflus, et je pense que le capitalisme le voit bien. Et puis il y a aussi le problème aussi des nanotechnologies. Les nanotechnologies, c'est pas essentiellement des vêtements qui vont changer de couleur, c'est quand même modifier le comportement des êtres humains. Hein, c'est-à-dire on peut changer la mémoire et on peut faire des légumes. Oui, mais c'est pas de la fiction, ça se fait aujourd'hui. Voilà. Donc la technique, je pense qu'il faut peut-être voir du côté de la Arendt et du côté de Massy. Et du côté de Terre-Mers. Merci.
Un complément. Vous cliquez un peu sur nanotechnologie, évidemment, c'est peut-être de la science-fiction, n'empêche que ça traverse la barrière hématoencéphalique. Et ça, vous n'allez pas me dire, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire quand des particules de nanotechnologie traversent la barrière hématoencéphalique. Sinon, je vous parle des fibroblastes.
Et les conséquences du contrôle social des nanotechnologies.
Le jour
où Big Brother vous leur a mis la nanotechnologie dans vos têtes, vous aurez plus le droit de vous exprimer librement, monsieur.
Oui, mais ça, il reste encore à voir s'il peut le faire. Et ça dépend.
Excusez-moi, c'est la dernière question ici, vous répondrez globalement.
Oui, ce que je voulais dire, à peu près tout le monde l'a déjà dit, mais d'abord, j'ai trouvé votre discours extrêmement intéressant. Sans être tout à fait d'accord avec tout, c'était assez décapant par rapport à la gauche. Vous avez posé une question, où est la gauche ? En fait, elle est partout, mais elle est invisible. C'est un peu comme la classe ouvrière, elle est partout, mais elle est invisible, simplement parce qu'on n'en parle plus. Elle n'est plus dans les partis, elle est dans une foule de Français qui ont gardé dans leur cœur les valeurs de gauche, qui ont gardé dans leur tête l'esprit critique, mais qui ne sont absolument plus relayés dans les médias, à part le monde diplomatique, et encore moins dans les partis, quels qu'ils soient. Même l'extrême gauche, effectivement, je pense que les capitalistes, ils dorment tranquilles. C'est pas le NPA qui les empêche de dormir. Malgré sa volonté, certainement sincère, mais à mon avis impuissante. Alors par ailleurs, je suis d'accord avec vous, là, je pense que la gauche est cliniquement morte, c'est-à-dire que même si elle existe dans son cœur, elle n'a plus de bras, elle est complexée idéologiquement. C'est vrai que oser dire qu'il faudrait collectiviser les terres, ce qui me paraît évident, et n'est même pas dissible aujourd'hui, ça peut pas être entendu. Une remarque aussi, bon, par rapport à la décroissance, je ne suis pas décroissanciste, mais simplement je dis une croissance illimitée ne peut pas exister dans un monde fini. Et disons que l'optimisme technocratique était pardonnable au temps de Marx, mais je pense qu'après le XXe siècle, il n'est plus de mise. La technologie, c'est pas un outil neutre. La science n'est pas neutre. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous les travaux d'épistémologie qui ont eu lieu au cours du siècle écoulé, mais je crois qu'on peut. Ça me paraît incroyablement. Périmé de dire que la science c'est neutre, c'est simplement la manière dont on l'emploie qui. Non, depuis Ellul, depuis Illich et bien d'autres, on sait très bien que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alors par ailleurs, je suis tout à fait d'accord pour l'autogestion, la propriété collective, mais la propriété collective d'usines d'armement ou la propriété collective d'industries polluantes, c'est pas non plus la solution. La dimension écologique compte. Simplement pour vous donner un exemple, il y a eu des analyses faites dans le miel à travers toute la France pour détecter le taux de métaux lourds. eh bien, le taux de métaux lourds est à la limite du consommable à peu près partout, y compris dans des zones éloignées de toute industrie, comme les ruchers qui sont sur le Mont Lozère, produisent du miel à la limite du consommable. Personnellement, je suis naturaliste, je suis entomologiste, je peux vous dire qu'actuellement, la biodiversité européenne est en train de disparaître. Dans 25 ans, on sera dans un désert écologique, il n'y aura plus de biodiversité en Europe. Alors, on pense à l'avenir, mais si on n'a plus de planète sous nos pieds, socialisme ou capitalisme, il n'y aura de toute façon plus rien.
Je résiste un peu à ce genre de discours, je ne vais pas trouver des solutions chez Anna Arendt, et je ne suis pas d'accord avec tout ce discours, justement, anti, mais il faudrait me réinviter pour une autre conférence, parce que franchement,
c'est très long
de discuter, justement, toute la techno, tout le discours sur la technique que vous trouvez, justement, chez Heidegger, etc., me paraît fondamentalement vicié, me paraît en fait une façon d'excuser son propre rôle et le rôle des autres dans le nazisme. On dit c'est pas nous, c'est la technique, il y a un esprit de la technique qui nous détermine, etc. Moi je reste fondamentalement convaincu qu'un marteau ça peut servir à enfoncer un clou dans le mur ou à fracasser le crâne de quelqu'un d'autre et que la personne qui décide sont les êtres humains. Et moi je suis convaincu que les structures sociales dans lesquelles on vit font que l'usage de la technique est perverti. Mais je reste convaincu que la technique est l'arme principale que nous pouvons pour sortir et qui a permis à une partie de l'humanité de sortir de la misère, qui permettra à l'avenir à l'humanité de sortir de la misère, et que c'est aux forces sociales à utiliser la technique dans un sens progressiste, dans un sens positif. Et effectivement, il y a les armes, il y a surtout les armes atomiques dont je n'ai pas parlé, qui sont les plus grands dangers pour l'humanité. Nous devons essayer de nous mobiliser, et nous devons absolument changer. C'est le changement de la société et de la structure sociale qui permettra de mettre la technique à notre service, mais la technique peut être mise à notre service et nous n'en sommes pas les esclaves. Et le fait de nous voir comme des esclaves de la technique, c'est une façon d'ignorer les forces sociales qui utilisent la technique à leur propre fin. Ce sont deux points de vue différents sur la technique, mais moi, effectivement, j'ai aussi, ça c'est aussi un aspect où la gauche classique a été remplacée par la nouvelle gauche, où la nouvelle gauche a un discours anti-technique en soi, parce que la technique n'est pas neutre.
Ah oui, mais
c'est trop compliqué de dire qu'elle est neutre parce qu'elle est produite dans un contexte social donné, mais il y a un niveau fondamental où je pense que le problème est celui de la structure sociale et pas de la technique. C'est pas la technique qui nous impose des choses. Si on détourner le discours vers la technique, c'est une façon de détourner l'attention du problème fondamental qui reste celui du capitalisme, entendu comme propriété prédominante de production. Bon, je pense qu'il faut s'arrêter.
Oui, donc on va remercier Jean-Brick Mont. On a exactement un quart d'heure. Nous avons 10 minutes pour évacuer toute la salle et remettre les chaises en place. Voilà. Donc c'est 10 minutes, on a encore le temps de discuter un petit peu entre nous. Voilà. Donc je vous rappelle que la prochaine conférence a lieu le 18 mai avec Annie Lacroix-Ris. Et le 18 mai, nous allons fêter la défaite, les 70 ans de la défaite de 1940, avec des informations historiques.